Honoré de Balzac, une ténébreuse affaire. Chapitre 1. Le Judas. L'automne de l'année 1803 fut un des plus beaux de la première période de ce siècle que nous nommons l'Empire. En octobre, quelques pluies avaient rafraîchi les prés, les arbres étaient encore verts et feuillés au milieu du mois de novembre. Aussi le peuple commençait-il à établir entre le ciel et Bonaparte, alors déclaré consul à vie, une entente à laquelle cet homme a dû l'un de ses prestiges. Et, chose étrange, le jour où, en 1812, le soleil lui manqua, ses prospérités cessèrent. Le 15 novembre de cette année, vers 4 heures du soir, le soleil jetait comme une poussière rouge sur les cimes centenaires de 4 rangées d'ormes d'une longue avenue seigneuriale. Il faisait briller le sable et les touffes d'herbe d'un de ces immenses ronds-points qui se trouvent dans les campagnes où la terre fut jadis assez peu coûteuse pour être sacrifiée à l'ornement. L'air était si pur, l'atmosphère était si douce, qu'une famille prenait alors le frais comme en été. Un homme, vêtu d'une veste de chasse en coutil vert, à boutons verts et d'une culotte de même étoffe, chaussé de souliers à semelles minces et qui avait des guêtres de coutil montant jusqu'aux genoux, nettoyait une carabine avec le soin que mettent à cette occupation les chasseurs adroits dans leurs moments de loisir. Cet homme n'avait ni carnier, ni gibier, enfin aucun des agrès qui annoncent ou le départ ou le retour de la chasse, et deux femmes, assises auprès de lui, le regardaient et paraissaient en proie à une terreur mal déguisée. Quiconque eût pu contempler cette scène, cachée dans un buisson, aurait sans doute frémi comme frémissaient la vieille belle-mère et la femme de cet homme. Évidemment, un chasseur ne prend pas de si minutieuses précautions pour tuer le gibier et n'emploie pas, dans le département de l'Aube, une lourde carabine rayée. « Tu veux tuer des chevreuils, Michu ?» lui dit sa belle jeune femme en tâchant de prendre un air riant. Avant de répondre, Michu examina son chien qui, couché au soleil, les pattes en avant, le museau sur les pattes, dans la charmante attitude des chiens de chasse, venait de lever la tête et flairait alternativement en avant de lui dans l'avenue d'un quart de lieue de longueur et vers un chemin de traverse qui débouchait à gauche dans le rond-point. « Non, répondit Michu, mais un monstre que je ne veux pas manquer, un loup cervier. » Le chien, un magnifique épagneul à robe blanche tachetée de brun, grogna. « Bon, dit Michu en se parlant à lui-même, des espions. Le pays en fourmille. » Madame Michu leva douloureusement les yeux au ciel. Belle blonde aux yeux bleus, faite comme une statue antique, pensive et recueillie, elle paraissait être dévorée par un chagrin noir et amer. L'aspect du mari pouvait expliquer jusqu'à un certain point la terreur des deux femmes. Les lois de la physionomie sont exactes, non seulement dans leur application au caractère, mais encore relativement à la fatalité de l'existence. Il y a des physionomies prophétiques. S'il était possible, et cette statistique vivante importe à la société, d'avoir un dessin exact de ceux qui périssent sur l'échafaud, la science de Lavater et celle de Gall prouveraient invinciblement qu'il y avait dans la tête de tous ces gens, même chez les innocents, des signes étranges. Oui, la fatalité met sa marque au visage de ceux qui doivent mourir d'une mort violente quelconque. Or, ce sceau, visible aux yeux de l'observateur, était empreint sur la figure expressive de l'homme à la carabine. Petit et gros, brusque et leste comme un singe, quoique d'un caractère calme, Michu avait une face blanche, injectée de sang, ramassée comme celle d'un kalmouk et à laquelle des cheveux rouges, crépus, donnait une expression sinistre. Ses yeux jaunâtres et clairs, au frais, comme ceux des tigres, une profondeur intérieure où le regard de qui l'examinait allait se perdre sans y rencontrer de mouvement ni de chaleur. Fixe, lumineuse et rigide, ses yeux finissaient par épouvanter. L'opposition constante de l'immobilité des yeux avec la vivacité du corps ajoutait encore à l'impression glaciale que Michu causait au premier abord. Prompte chez cet homme, l'action devait desservir une pensée unique. De même que chez les animaux, la vie est sans réflexion au service de l'instinct. Depuis 1793, il avait aménagé sa barbe rousse en éventail. Quand même il n'aurait pas été, pendant la Terreur, président d'un club de Jacobins, cette particularité de sa figure l'eût, à elle seule, rendue terrible à voir. Cette figure socratique à nez Camus était couronnée par un très beau front, mais si bombé qu'il paraissait être en surplomb sur le visage. Les oreilles bien détachées possédaient une sorte de mobilité comme celle des bêtes sauvages, toujours sur le qui-vive. La bouche, entr'ouverte par une habitude assez ordinaire chez les campagnards, laissait voir des dents fortes et blanches comme des amandes, mais mal rangées. Des favoris épais et luisants encadraient cette face blanche et violacée par places. Les cheveux coupés ras sur le devant, longs sur les joues et derrière la tête, faisaient, par leur rougeur fauve, parfaitement ressortir tout ce que cette physionomie avait d'étrange et de fatal. Le cou, court et gros, tentait le couperet de la loi. En ce moment, le soleil, prenant ce groupe en écharpe, illuminait en plein ces trois têtes que le chien regardait par moments. Cette scène se passait d'ailleurs sur un magnifique théâtre. Ce rond-point est à l'extrémité du parc de Gondreville, une des plus riches terres de France et, sans contredit, la plus belle du département de l'Aube. Magnifiques avenues d'ormes, châteaux construits sur les dessins de mansard, parcs de 1500 arpents enclos de murs, 9 grandes fermes, une forêt, des moulins et des prairies. Cette terre quasi royale appartenait avant la Révolution à la famille de Simeuse. Simeuse, Ximeuse, est un fief situé en Lorraine. Le nom se prononçait Simeuse et l'on avait fini par l'écrire S-I-M-E-U-S-E comme il se prononçait. La grande fortune des Simeuse, gentilshommes attachés à la maison de Bourgogne, remonte au temps où les Guises menacèrent les Valois. Richelieu d'abord, puis Louis XIV, se souvinrent du dévouement des Simeuse à la factieuse maison de Lorraine et les rebutèrent. Le marquis de Simeuse d'alors, vieux bourguignon, vieux guisard, vieux ligueur, vieux frondeur, il avait hérité des 4 grandes rancunes de la noblesse contre la royauté, vint vivre à 5 cygnes. Ce courtisan, repoussé du Louvre, avait épousé la veuve du comte de 5 cygnes, la branche cadette de la fameuse maison de Chargebœuf, une des plus illustres de la vieille comté de Champagne, mais qui devint aussi célèbre et plus opulente que l'aînée. Le marquis, un des hommes les plus riches de ce temps, au lieu de se ruiner à la cour, bâtit Gondreville, en composa les domaines, et y joignit des terres uniquement pour se faire une belle chasse. Il construisit également à Troyes l'hôtel de Simeuse, à peu de distance de l'hôtel de 5 cygnes. Ces deux vieilles maisons et l'évêché furent pendant longtemps à Troyes les seules maisons en pierre. Le marquis vendit Simeuse au duc de Lorraine. Son fils dissipa les économies et quelque peu de cette grande fortune sous le règne de Louis XV. Mais ce fils devint d'abord chef d'escadre, puis vice-amiral, et répara les folies de sa jeunesse par d'éclatants services. Le marquis de Simeuse, fils de ce marin, avait péri sur l'échafaud à Troyes, laissant 2 enfants jumeaux qui émigrèrent et qui se trouvaient en ce moment à l'étranger, suivant le sort de la maison de Condé. Ce rond-point était jadis le rendez-vous de chasse du grand marquis. On nommait ainsi dans la famille le Simeuse qui érigea Gondreville. Depuis 1789, Michu habitait ce rendez-vous, si à l'intérieur du parc, bâti du temps de Louis XIV, et appelé le pavillon de 5 cygnes. Le village de 5 cygnes est au bout de la forêt de Nodème, corruption de Notre-Dame, à laquelle mène l'avenue à 4 rangs d'ormes où Courault flaira des espions. Depuis la mort du grand marquis, ce pavillon avait été tout à fait négligé. Le vice-amiral hanta beaucoup plus la mer et la cour que la Champagne, et son fils donna ce pavillon délabré pour demeure à Michu. Ce noble bâtiment est en briques, orné de pierres vermiculées aux angles, aux portes et aux fenêtres. De chaque côté s'ouvre une grille d'une belle serrurerie, mais rongée de rouille. Après la grille s'étend un large, un profond seau de loup, d'où s'élancent des arbres vigoureux, dont les parapets sont hérissés d'arabesques en fer qui présentent leurs innombrables piquants aux malfaiteurs. Les murs du parc ne commencent qu'au-delà de la circonférence produite par le rond-point. En dehors, la magnifique demi-lune est dessinée par des talus plantés d'ormes, de même que celle qui lui correspond dans le parc est formée par des massifs d'arbres exotiques. Ainsi, le pavillon occupe le centre du rond-point tracé par ses deux fers à cheval. Michu avait fait des anciennes salles du rez-de-chaussée une écurie, une étable, une cuisine et un bûcher. De l'antique splendeur, la seule trace est une antichambre dallée en marbre noir et blanc, où l'on entre, du côté du parc, par une de ces portes-fenêtres vitrées en petits carreaux, comme il y en avait encore à Versailles avant que Louis-Philippe n'enfile l'hôpital des gloires de la France. À l'intérieur, ce pavillon est partagé par un vieil escalier en bois vermoulu mais plein de caractère qui mène au premier étage où se trouvent cinq chambres un peu basses d'étage. Au-dessus s'étend un immense grenier. Ce vénérable édifice est coiffé d'un de ces grands combles à quatre pans dont l'arête est ornée de deux bouquets en plomb et percé de quatre de ces œils de bœuf que Mansart affectionnait avec raison. Car en France, l'attique et les toits plats à l'italienne sont un non-sens contre lequel le climat proteste. Michu mettait là ses fourrages. Toute la partie du parc qui environne ce vieux pavillon est à l'anglaise. À 100 pas, un ex-lac, devenu simplement un étang bien empoissonné, atteste sa présence autant par un léger brouillard au-dessus des arbres que par le cri de mille grenouilles, crapauds et autres amphibies bavards au coucher du soleil. La vétusté des choses, le profond silence des bois, la perspective de l'avenue, la forêt au loin, mille détails, les fers rongés de rouille, les masses de pierres veloutées par les mousses, tout poétise cette construction qui existe encore. Au moment où commence cette histoire, Michu était appuyé à l'un des parapets moussus sur lequel se voyaient sa poire à poudre, sa casquette, son mouchoir, un tournevis, des chiffons, enfin tous les ustensiles nécessaires à sa suspecte opération. La chaise de sa femme se trouvait adossée à côté de la porte extérieure du pavillon, au-dessus de laquelle existaient encore les armes de cimeuse richement sculptées avec leur belle devise « Si meurt ». La mère, vêtue en paysanne, avait mis sa chaise devant Madame Michu pour qu'elle eût les pieds à l'abri de l'humidité sur un des bâtons. « Le petit est là ?» demanda Michu à sa femme. « Il rôde autour de l'étang, il est fou des grenouilles et des insectes, » dit la mère. Michu siffla de façon à faire trembler. La prestesse avec laquelle son fils accourut démontrait le despotisme exercé par le régisseur de Gondreville. Michu, depuis 1789, mais surtout depuis 1793, était à peu près le maître de cette terre. La terreur qu'il inspirait à sa femme, à sa belle-mère, à un petit domestique nommé Gaucher et à une servante nommée Marianne, était partagée à 10 lieues à la ronde. Peut-être ne faudrait-il pas tarder plus longtemps de donner les raisons de ce sentiment, qui d'ailleurs achèveront au moral le portrait de Michu. Le vieux marquis de Cimeuse s'était défait de ses biens en 1790. Mais, devancé par les événements, il n'avait pu mettre en des mains fidèles sa belle terre de Gondreville. Accusé de correspondre avec le duc de Brunswick et le prince de Cobourg, le marquis de Cimeuse et sa femme furent mis en prison et condamnés à mort par le tribunal révolutionnaire de Troyes que présidait le père de Marthe. Ce beau domaine fut donc vendu nationalement. Lors de l'exécution du marquis et de la marquise, on y remarqua, non sans une sorte d'horreur, le garde général de la terre de Gondreville, qui, devenu président du club des Jacobins d'Arcy, vint à Troyes pour y assister. Fils d'un simple paysan et orphelin, Michu, Comblé des bienfaits de la marquise qui lui avait donné la place de garde générale, après l'avoir fait élever au château, fut regardé comme un Brutus par les exaltés. Mais dans le pays, tout le monde cessa de le voir après ce trait d'ingratitude. L'acquéreur fut un homme d'Arcy nommé Marion, petit-fils d'un intendant de la maison de Simeuse. Cet homme, avocat avant et après la Révolution, eut peur du garde. Il en fit son régisseur en lui donnant 3 000 livres de gage et un intérêt dans les ventes. Michu, qui passait déjà pour avoir une dizaine de 1 000 francs, épousa, protégée par sa renommée de patriote, la fille d'un tanneur de Troyes, l'apôtre de la Révolution dans cette ville où il présida le tribunal révolutionnaire. Ce tanneur, homme de conviction, qui, pour le caractère, ressemblait à Saint-Just, se trouva mêlé plus tard à la conspiration de Babeuf et il se tua pour échapper à une condamnation. Marthe était la plus belle fille de Troyes. Aussi, malgré sa touchante modestie, avait-elle été forcée par son redoutable père de faire la déesse de la liberté dans une cérémonie républicaine. L'acquéreur ne vint pas 3 fois en 7 ans à Gondreville. Son grand-père avait été l'intendant des Simeuses. Tout Arcy crut alors que le citoyen Marion représentait messieurs de Simeuse. Tant que dura la terreur, le régisseur de Gondreville, patriote dévoué, gendre du président du tribunal révolutionnaire de Troyes, caressé par Malin de l'Aube, l'un des représentants du département, se vit l'objet d'une sorte de respect. Mais quand la montagne fut vaincue, lorsque son beau-père se fut tué, Michu devint un bouc émissaire. Tout le monde s'empressa de lui attribuer, ainsi qu'à son beau-père, des actes auxquels il était, pour son compte, parfaitement étranger. Le régisseur se banda contre l'injustice de la foule. Il se roidit et prit une attitude hostile. Sa parole se fit audacieuse. Cependant, depuis le 18 Brumaire, il gardait ce profond silence qui est la philosophie des gens forts. Il ne luttait plus contre l'opinion générale, il se contentait d'agir. Cette sage conduite le fit regarder comme un sournois, car il possédait en terre une fortune d'environ 100 000 francs. D'abord, il ne dépensait rien. Puis cette fortune lui venait légitimement, tant de la succession de son beau-père que des 6 000 francs par an que lui donnait sa place en profit et en appointement. Quoiqu'il fût régisseur depuis 12 ans, quoique chacun pût faire le compte de ses économies, quand, au début du consulat, il acheta une ferme de 50 000 francs, il s'éleva des accusations contre l'ancien montagnard. Les gens d'Arcy lui prêtaient l'intention de recouvrer la considération en faisant une grande fortune. Malheureusement, au moment où chacun l'oubliait, une sotte affaire, envenimée par le caquet des campagnes, raviva la croyance générale sur la férocité de son caractère. Un soir, à la sortie de Troyes, en compagnie de quelques paysans, parmi lesquels se trouvait le fermier de Cinq-Cygnes, il laissa tomber un papier sur la grande route. Ce fermier, qui marchait le dernier, se baisse et le ramasse. Michu se retourne, voit le papier dans les mains de cet homme, il tire aussitôt un pistolet de sa ceinture, l'arme et menace le fermier qui savait lire de lui brûler la cervelle s'il ouvrait le papier. L'action de Michu fut si rapide, si violente, le son de sa voix si effrayant, ses yeux si flamboyants que tout le monde eut froid de peur. Le fermier de Cinq-Cygnes était naturellement un ennemi de Michu. Mademoiselle de Cinq-Cygnes, cousine des Simeuses, n'avait plus qu'une femme pour toute fortune et habitait son château de Cinq-Cygnes. Elle ne vivait que pour ses cousins, les jumeaux, avec lesquels elle avait joué dans son enfance à Troyes et à Gondreville. Son frère unique, Jules de Cinq-Cygnes, émigré avant les Simeuses, était mort devant Mayence, mais par un privilège assez rare et dont il sera parlé, le nom de Cinq-Cygnes ne périssait point faute de mal. Cette affaire entre Michu et le fermier de Cinq-Cygnes fit un tapage épouvantable dans l'arrondissement et rembrunit les teintes mystérieuses qui voilaient Michu. Mais cette circonstance ne fut pas la seule qui le rendit redoutable. Quelques mois après cette scène, le citoyen Marion vint avec le citoyen Malin à Gondreville. Le bruit courut que Marion allait vendre la terre à cet homme que les événements politiques avaient bien servi et que le premier consul venait de placer au Conseil d'État pour le récompenser de ses services aux 18 Brumaires. Les politiques de la petite ville d'Arcy devinèrent alors que Marion avait été le prête-nom du citoyen malin au lieu d'être celui de messieurs de Simeuse. Le tout-puissant conseiller d'État était le plus grand personnage d'Arcy. Il avait envoyé l'un de ses amis politiques à la préfecture de Troyes, il avait fait exempter du service le fils d'un des fermiers de Gondreville, appelé Beauvisage, il rendait service à tout le monde. Cette affaire ne devait donc point rencontrer de contradicteurs dans le pays, où Malin régnait et où il règne encore. On était à l'aurore de l'Empire. Ceux qui lisent aujourd'hui des histoires de la Révolution française ne sauront jamais quels immenses intervalles la pensée publique mettait entre les événements si rapprochés de ce temps. Le besoin général de paix et de tranquillité que chacun éprouvait après de violentes commotions engendrait un complet oubli des faits antérieurs les plus graves. L'histoire vieillissait promptement, constamment mûrie par des intérêts nouveaux et ardents. Ainsi, personne, excepté Michu, ne rechercha le passé de cette affaire qui fut trouvée toute simple. Marion, qui, dans le temps, avait acheté Gondreville 600 000 francs en assignats, le vendit 1 000 000 en écus. Mais la seule somme déboursée par Malin fut le droit de l'enregistrement. Grévin, un camarade de cléricature de Malin, favorisait naturellement ce tripotage et le conseiller d'État le récompensa en le faisant nommer notaire à Arcy. Quand cette nouvelle parvint au pavillon, apportée par le fermier d'une ferme sise entre la forêt et le parc, à gauche de la belle avenue et nommée Grouage, Michu devint pâle et sortit. Il alla épier Marion et finit par le rencontrer seul dans une allée du parc. « Monsieur Van Gondreville ?»« Oui, Michu, oui, vous aurez un homme puissant pour maître. Le conseiller d'État est l'ami du premier consul. » Il est lié très intimement avec tous les ministres, il vous protégera. Vous gardiez donc la terre pour lui ? Je ne dis pas cela, reprit Marion. Je ne savais dans le temps comment placer mon argent, et pour ma sécurité, je l'ai mis dans les biens nationaux. Mais il ne me convient pas de garder la terre qui appartenait à la maison où mon grand-père a été domestique, intendant, dit violemment Michu. Mais vous ne la vendrez pas. Je la veux et je puis vous la payer, moi.
« Toi ?»«
Oui, moi, sérieusement et en bon or, 800 000 francs. »«
800 000 francs ? Où les as-tu pris ?» dit Marion.
« Cela ne vous regarde pas, » répondit Michu. Puis, en se radoucissant, il ajouta tout bas. « Mon père a sauvé bien des gens. »«
Tu viens trop tard, Michu, l'affaire est faite. »«
Vous la déferez, monsieur !» s'écria le régisseur en prenant son maître par la main et la lui serrant comme dans un étau. « Je suis haï, je veux être riche et puissant, il me faut Gondreville. Sachez-le, je ne tiens pas à la vie, et vous allez me vendre la terre ou je vous ferai sauter la cervelle. »
« Mais au moins faut-il le temps de me retourner avec Malin, qui n'est pas commode.
Je vous donne 24 heures. Si vous dites un mot de ceci, je me soucie de vous couper la tête comme de couper une rave. »
Marion et Malin quittèrent le château pendant la nuit. Marion eut peur et instruisit le conseiller d'État de cette rencontre en lui disant d'avoir l'œil sur le régisseur. Il était impossible à Marion de se soustraire à l'obligation de rendre cette terre à celui qui l'avait réellement payée, et Michu ne paraissait homme ni à comprendre ni à admettre une pareille raison. D'ailleurs, ce service rendu par Marion à Malin devait être et fut l'origine de sa fortune politique et de celle de son frère. Malin fit nommer, en 1806, l'avocat Marion premier président d'une cour impériale et, dès la création des receveurs généraux, il procura la recette générale de l'aube au frère de l'avocat. Le conseiller d'État dit à Marion de demeurer à Paris et prévint le ministre de la police qui mit le garde en surveillance. Néanmoins, pour ne pas le pousser à des extrémités et pour le mieux surveiller peut-être, Malin laissa Michu régisseur sous la férule du notaire d'Arcy. Depuis ce moment, Michu, qui devint de plus en plus taciturne et songeur, eut la réputation d'un homme capable de faire un mauvais coup. Malin, conseiller d'État, fonction que le premier consul rendit alors égale à celle de ministre et l'un des rédacteurs du Code, jouait un grand rôle à Paris, où il avait acheté l'un des plus beaux hôtels du faubourg Saint-Germain, après avoir épousé la fille unique de Sibuel, un riche fournisseur assez déconsidéré, qu'il associa pour la recette générale de l'aube à Marion. Aussi n'était-il pas venu plus d'une fois à Gondreville, il s'en reposait d'ailleurs sur Grévin de tout ce qui concernait ses intérêts. Enfin, qu'avait-il à craindre, lui, ancien représentant de l'aube, d'un ancien président du club des Jacobins d'Arcy? Cependant, l'opinion, déjà si défavorable à Michu dans les basses classes, fut naturellement partagée par la bourgeoisie. Et Marion, Grévin, Malin, sans s'expliquer ni se compromettre, le signalèrent comme un homme excessivement dangereux. Obligé de veiller sur le garde par le ministre de la police générale, les autorités ne détruisirent pas cette croyance. On avait fini, dans le pays, par s'étonner de ce que Michu gardait sa place. Mais on avait pris cette concession pour un effet de la terreur qu'il inspirait. Qui maintenant ne comprendrait pas la profonde mélancolie exprimée par la femme de Michu? D'abord, Marthe avait été pieusement élevée par sa mère. Toutes deux, bonnes catholiques, avaient souffert des opinions et de la conduite du tanneur. Marthe ne se souvenait jamais sans rougir d'avoir été promenée dans la ville de Troyes en costume de déesse. Son père l'avait contrainte d'épouser Michu, dont la mauvaise réputation allait croissant, et qu'elle redoutait trop pour pouvoir jamais le juger. Néanmoins, cette femme se sentait aimée, et, au fond de son cœur, il s'agitait pour cet homme effrayant la plus vraie des affections. Elle ne lui avait jamais rien vu faire que de juste, jamais ses paroles n'étaient brutales, pour elle du moins. Enfin, il s'efforçait de deviner tous ses désirs. Ce pauvre paria, croyant être désagréable à sa femme, restait presque toujours dehors. Marthe et Michu, en défiance l'un de l'autre, vivaient dans ce que l'on appelle aujourd'hui une paix armée. Marthe, qui ne voyait personne, souffrait vivement de la réprobation qui, depuis 7 ans, la frappait comme fille d'un coupe-tête et de celle qui frappait son mari comme traître. Plus d'une fois, elle avait entendu les gens de la ferme qui se trouvaient dans la plaine à droite de l'avenue, appelée Bellache et tenue par Beau Visage, un homme attaché aux cimeuses, dire en passant devant le pavillon « Voilà la maison des Judas !» La singulière ressemblance de la tête du régisseur avec celle du 13e apôtre, et qu'il semblait avoir voulu compléter, lui valait en effet cet odieux surnom dans le pays. Aussi ce malheur, et de vagues, de constantes appréhensions de l'avenir, rendait-il Marthe pensive et recueillie. Rien n'attriste plus profondément qu'une dégradation imméritée et de laquelle il est impossible de se relever. Un peintre n'eût-il pas fait un beau tableau de cette famille de parias au sein d'un des plus jolis sites de la Champagne, où le paysage est généralement triste? « François !» cria le régisseur pour faire encore hâter son fils. François Michu, enfant âgé de 10 ans, jouissait du parc, de la forêt, et levait ses menus suffrages en maître. Il mangeait les fruits, il chassait, il n'avait ni soin ni peine. Il était le seul être heureux de cette famille, isolée dans le pays par sa situation entre le parc et la forêt, comme elle l'était moralement par la répulsion générale. « Ramasse-moi tout ce qui est là, » dit le père à son fils en lui montrant le parapet, « et serre-moi cela. Regarde-moi, tu dois aimer ton père et ta mère. » L'enfant se jeta sur son père pour l'embrasser, mais Michu fit un mouvement pour déplacer la carabine et le repoussa. « Bien, tu as quelquefois jasé sur ce qui se fait ici, » dit-il en fixant sur lui ses 2 yeux redoutables comme ceux d'un chat sauvage. « Retiens bien ceci. » Révéler la plus indifférente des choses qui se font ici, à Gaucher, aux gens de Grouage ou de Bellache, et même à Marianne qui nous aime, ce serait tuer ton père. Que cela ne t'arrive plus, et je te pardonne tes indiscrétions d'hier. » L'enfant se mit à pleurer. « Ne pleure pas, mais à quelques questions qu'on te fasse, réponds comme les paysans, je ne sais pas. Il y a des gens qui rôdent dans le pays et qui ne me reviennent pas. Va. Vous avez entendu, vous deux ? Dit Michu aux femmes. Ayez aussi la gueule morte.
Mon ami, que vas-tu faire ?
Michu, qui mesurait avec attention une charge de poudre et la versait dans le canon de sa carabine, posa l'arme contre le parapet et dit à Marthe.
Personne ne me connaît cette carabine, mets-toi devant.
Courreau, dressé sur ses quatre pattes, aboyait avec fureur.
Belle et intelligente bête, s'écria Michu, je suis sûr que c'est des espions.
On se sait espionner. Courreau et Michu, qui semblaient avoir une seule et même âme, vivaient ensemble comme l'arabe et son cheval vivent dans le désert. Le régisseur connaissait toutes les modulations de la voix de Courreau et les idées qu'elles exprimaient, de même que le chien lisait la pensée de son maître dans ses yeux et la sentait exaltée dans l'air de son corps.
« Ah, qu'en dis-tu ? »
s'écria tout bas Michu en montrant à sa femme deux sinistres personnages qui apparurent dans une contre-allée qui se dirigeait vers le rond-point.
« Que se passe-t-il dans le pays ? C'est des Parisiens ? » dit la vieille.
« Ah, voilà ! » s'écria Michu. « Cache donc ma carabine ! » dit-il à l'oreille de sa femme. « Ils viennent à nous !»